Alors, notre historien en résidence, Marcel Dugas, c'est un homme de parole. Je ne sais pas si vous vous rappelez,
oui, à la radio, c'est normal.
Oui, ben oui. Oh là là! On se tape sur les cuisses!
Ça part très fort.
Ça part fort. Alors, si vous me permettez de continuer oui, l'introduction de notre cher historien. Alors, vous vous rappelez qu'il y a un certain temps, il nous avait parlé de cette féministe combative Madeleine Parent. Mais il nous avait aussi fait une promesse qu'un jour, il reviendrait sur une de ses amies, je veux dire ça comme ça, Léa Robach, qui est aussi une femme de tous les combats au Québec au cours du 20e siècle. Et voilà, ce sera chose faite, puisque Marcel va nous parler de cela ce matin. Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour. Oui, bien, en fait, non seulement elles se sont connues, elles se sont côtoyées, mais depuis 1997, il y a à Montréal la maison Parent-Robach, qui regroupe des organisations qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes. Donc, elles sont vraiment liées, toutes les deux, autant par leur engagement, et ça se continue maintenant qu'elles nous ont toutes les deux quittées. Donc, oui, effectivement, je vous parle de Léa Robach aujourd'hui. Comme j'avais dit que je le ferais, des fois, ça prend un peu de temps, mais c'est venu toujours par arriver.
Oh, bien, mieux vaut tard que jamais, hein?
C'est bien vrai. Léa Robach est née à Montréal en 1903 dans une famille juive originaire de Pologne. Ses parents auront 9 enfants et Léa était très jeune lorsque la famille déménage à Beauport, en banlieue de Québec. Et chez les Robach, on parle 3 langues. Le yiddish à la maison, le français avec les gens du quartier, notamment avec les clients du magasin familial. On se trouvait dans un quartier presque exclusivement francophone. Et comme elle n'était pas catholique, Léa a dû fréquenter l'école anglophone protestante. Elle n'était pas protestante non plus, mais ça a été le lot de beaucoup d'enfants juifs au Québec qu'on a poussé vers la communauté anglo-protestante parce que pour nous catholiques, ben les hérétiques, peu importe comment ils s'appelaient, on les faisait étudier ensemble, ça finissait là. Donc Léa est trilingue lorsque la famille va quitter Beauport pour revenir à Montréal et qu'elle entre sur le marché du travail à l'adolescence. Elle travaille dans une teinturerie, puis comme caissière dans un cinéma du centre-ville, situé tout près d'un bordel. Elle est donc en contact avec des employés ES de l'établissement. Et on ne sent pas de jugement lorsqu'elle en parle. Il était difficile pour une femme sans éducation de gagner sa vie à l'époque, et des fois, il faut ce qu'il faut. Le manque d'éducation ne sera pas un problème, toutefois, pour Léa Robach. Elle ramasse soigneusement son argent pour pouvoir s'inscrire en littérature à l'Université de Grenoble, en France. Donc déjà, on voit qu'elle suit une trajectoire qui n'est pas ordinaire. Les femmes dans les universités en 1926 n'étaient pas légion, et elle va étudier à l'étranger, en plus. C'est quelqu'un qui voulait absolument voyager, explorer, découvrir, sortir du milieu où elle était née, où elle avait grandi. Ce sera la France. Puis en 1929, elle va rejoindre son grand frère qui étudiait la médecine à Berlin. Et ça peut sembler étrange, une personne de confession juive qui parle en bien du Berlin du début des années 1930. Pourtant, elle en a gardé d'excellents souvenirs le reste de sa vie. Elle se rappelait notamment de la vie culturelle berlinoise, le théâtre de Bertolt Brecht, dramaturge marxiste allemand dont les pièces ont été interdites par le régime nazi. On a brûlé ses livres, on lui a retiré sa nationalité allemande. Bref, c'était très vivant de ce côté-là. Et c'est pendant cette période-là que Léa Robach devient communiste. Elle joint le Parti communiste allemand en 1929 et participe à de nombreuses manifestations ouvrières et étudiantes. Mais le climat social se dégrade. Plus le temps avançait, plus elle voyait des gens en uniforme brun nazi dans les rues. Et elle, en tant que communiste, juive, une femme, une étrangère à plus forte raison, elle aurait rapidement été ciblée par le régime d'Hitler. On la convainc donc de quitter l'Allemagne, ce qu'elle fait à regret en 1932. Elle séjourne dans l'État de New York, puis en URSS brièvement, avant de revenir à Montréal où elle vivra le reste de sa vie. Dans la métropole, elle ouvre une librairie marxiste, ce qui n'était pas nécessairement une décision populaire à cette époque où rien ne fait plus peur dans nos sociétés occidentales que le communisme et où les dirigeants autoritaires sont souvent assez populaires. Robach, qui a pris fait et cause pour les républicains lors de la guerre civile espagnole de la fin des années 1930, a raconté que l'écrivain français Georges Bernanos était venu donner une conférence dénonçant les excès du général Franco, futur dictateur qui a reçu l'aide de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste pour prendre le pouvoir. On n'a pas réussi à trouver une salle à Montréal où Bernanos a pu parler. les hautes sphères de la société canadienne-française semblaient gagner à la cause du général Franco. La librairie marxiste de Robac sera régulièrement visitée par la police, mais aussi, et ça m'a surpris de lire ça, par l'abbé Lionel Groux, qui, selon Léa Robac, avait la plus belle bibliothèque marxiste que vous pouviez voir. Elle va travailler aussi au comité électoral de Fred Rose, tout comme elle, un juif originaire de Pologne, qui se présentait aux élections fédérales sous la bannière du Parti communiste. Le local électoral a été saccagé, d'ailleurs, par des étudiants de l'Université de Montréal, sans que leur maître religieux ou la police n'interviennent. Elle amorce sa carrière dans le syndicalisme lorsque l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, qui est un syndicat américain, vient tenter de syndiquer cette industrie à Montréal. C'est un secteur où les travailleurs sont notoirement mal payés, les heures sont longues, on doit ramener du travail à la maison le soir très souvent, et les femmes sont régulièrement victimes du harcèlement sexuel de leurs supérieurs. On est en pleine crise économique. Les travailleuses vont devoir se battre pour éviter une érosion encore plus grande de leurs conditions. On envoie l'organisatrice syndicale Rose Pesotta de New York pour faire avancer le dossier. Elle s'adjoint les services de Robac, qui peut communiquer autant avec les Canadiennes françaises qu'avec les nombreuses ouvrières étrangères, que ce soit en anglais, en yiddish, même en allemand. Et en 1937, il n'y a pas moins de 5000 midinettes, les travailleuses du vêtement pour dames, qui tombent en grève et vont obtenir gain de cause à presque tous les points de vue après plus de 3 semaines de débrayage. Quelques années plus tard, elles travaillent à l'usine de la RCA Victor à Saint-Henri, une usine de 4000 travailleurs dont un fort pourcentage de femmes, et Robac va réussir à syndiquer l'entreprise à force d'éducation populaire, d'approche patiente auprès de ses collègues, en les convainquant de la valeur de l'action syndicale pour améliorer leurs conditions de vie. Elle a déjà dit en entrevue, « Les professeurs d'université ont besoin de syndicats. Imaginez à quel point les travailleurs et les travailleuses d'usines ont besoin de syndicats. » On la retrouve en 1943 comme porte-parole des fabricants de cabinets d'appareils radiophoniques de la RCA Victor, qui demandaient 10 sous de plus de l'heure. Malheureusement, on ne nous dit pas dans l'article que j'ai trouvé, on voulait passer de combien à combien. On disait seulement une augmentation de 10 sous de l'heure, ce qui était quand même un montant assez important pour l'époque. Ce qui est notable de Léa Robac, c'est qu'elle n'a jamais voulu prendre du galon, devenir permanente, monter dans la hiérarchie syndicale. Elle a déjà déclaré « J'ai toujours été avec les ouvriers et ouvrières. J'aimais être au coude à coude avec les personnes avec qui je travaillais. Je ne voulais pas sortir du rang. Je voulais pouvoir dire « nous » et que ce soit vraiment « nous ». Sa réputation comme militante était bien établie à ce moment-là et on dit souvent d'un individu qu'il ou elle a été de tous les combats. En général, c'est une figure de style. Mais je pense qu'on peut dire que Léa Robac a été de tous les combats dans le Québec du 20e siècle. Elle qui en a vécu la quasi-totalité, née en 1903, elle est décédée en 2000. Il y avait eu la lutte contre le fascisme, contre les évictions de locataires pendant la crise des années 1930, pour le droit de vote des femmes au provincial. Elle quitte le Parti communiste en 1958, mais dans une entrevue qu'elle avait donnée dans les dernières années de sa vie, elle disait que le but n'avait jamais été de renverser le système en place, que les communistes d'ici voulaient l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et ouvrières. Donc, ce désir-là demeure, même après sa rupture avec le parti. Elle joint aussi un collectif nommé La Voix des femmes, où on a retrouvé Thérèse Casgrain, Jeanne Sauvé, Solange Chaput-Roland, Simone Monnet-Chartrand. C'était un groupe pacifiste qui militait notamment contre la prolifération nucléaire de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, il a resté du temps à Léa Robac pour lutter pour le droit à un logement décent. Elle disait qu'elle avait fait une grande enquête là-dessus. Il avait été faire des revendications auprès du maire de Montréal qui avait fait le fanfaron, mais n'avait pas vraiment écouté ce qu'elle et son groupe avaient dit. Elle a lutté aussi pour l'accès à la contraception et à l'avortement, pour le droit des femmes immigrantes, autochtones, plus tout ce que j'ai probablement pas vu dans mes lectures. Et j'ai envie de terminer par une citation tirée d'une entrevue qu'elle a donnée en 1978. Elle disait « La vie militante, c'est une vie mouvementée, mais heureuse, où l'on apprend l'un de l'autre. Ce que j'ai appris à l'usine, l'université était incapable de l'enseigner. Ce sont des réalités qui vous prennent aux entrailles et qui, j'aurais envie d'ajouter, vous encouragent à rester active, impliqué sur le terrain, à rencontrer des gens et à distribuer des tracts presque jusqu'à la toute fin de votre vie, en tout cas, si vous êtes Léa Robach.
Comme à chaque fois que vous parlez de ces sujets, que vous abordez ces militants ou militantes, on a toujours la même réaction, c'est que les thèmes sur lesquels elles ont travaillé sont encore tellement d'actualité.
Il y en a, hein?
J'aimerais ça si on pouvait les réunir la semaine prochaine et qu'elles nous voient et qu'elles nous jugent sur ce qu'on a fait depuis leurs avancées à elles, mais finalement qui n'ont peut-être pas été si porteuses qu'on l'aurait souhaité.
Je me fais très, très souvent la même réflexion en regardant justement des questions du passé comme ça. Je me dis initialement, ça a beaucoup changé. Et après ça, quand j'y repense, je me dis, ça n'a pas changé tant que ça. Quand on regarde d'un peu plus près, évidemment, on disait une augmentation de 10 sous de l'heure, le salaire minimum, la dernière augmentation, je ne me rappelle plus c'était combien, mais très souvent, les augmentations, c'est des 10 sous, c'est des 15 sous. Donc, et évidemment, le 10 sous n'a pas la même valeur aujourd'hui qu'en 1943.
Non, c'est sûr. Bien, comme d'habitude, Marcel, ça a été très intéressant. Puis on va se retrouver la semaine prochaine.
Absolument.
Et là, bien, on jasera, comme on dit, après votre chronique. On prendra un petit peu de votre temps pour jaser sur un chroniqueur qui est historien. Un chroniqueur qui est historien. Alors, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.
Bonne semaine.